le nez.
Ce jour-là, 25 mars dernier, Pétersbourg fut le théâtre d'une aventure des plus étranges. Le barbier Ivan Yakovlevitch, domicilié avenue de l'Ascension, de son nom de famille est perdu et son enseigne ne porte que l'inscription, on pratique aussi les saignées en dessous d'un monsieur à la joue barbouillée de savon. Donc, le barbier Ivan Yakovlevitch se réveilla d'assez bonne heure et perçut une odeur de pain chaud. S'étant mis sur son séant, il vit que son épouse, personne plutôt respectable et qui prisait fort le café, défournait des pains tout frais cuits.
« Aujourd'hui, Prokosvi aussi pauvre, je ne prendrai pas de café. Je préfère grignoter un bon pain chaud avec de la ciboule. »
À la vérité, Ivan Yakovlevitch aurait bien voulu et pain et café, mais il jugeait impossible de demander les deux choses à la fois. Prokosvi Osipovna ne tolérant pas de semblables caprices.
Tant mieux que mon nigo s'en piffre des pains, il me restera davantage de café.
Respectueux des convenances, Ivan Yakovlevitch passa son habit par-dessus sa chemise et se mit en devoir de déjeuner. Il posa devant lui une pincée de sel, nettoya deux oignons, prit son couteau et, la mine grave, coupa son pain en deux. Il aperçut alors, à sa grande surprise, un objet blanchâtre au beau milieu. Il le tâta précautionneusement du couteau, le palpa du doigt.
Qu'est-ce que cela peut bien être ?
Il fourra alors ses doigts dans le pain et en retira
un nez.
Les bras lui en tombèrent. Il se frottait les yeux, palpa l'objet de nouveau, un nez, c'était bien un nez, et même, semblait-il, un nez de connaissance.
L'effroi se peignit sur les traits d'Ivan Yakovlevitch, mais cet effroi n'était rien comparé à l'indignation qui s'empara de sa respectable épouse.
« Où as-tu bien pu couper ces nez bougres d'animal ? Ivrogne, filou coquin ? Je vais aller de ce pas te dénoncer à la police. Brigand que tu es. J'ai déjà entendu dire à trois personnes qu'en leur faisant la barbe, tu tirailles le nez des gens à leur arracher. »
Cependant, Ivan Yakovlevitch était plus mort que vif. Il venait de reconnaître le nez de Monsieur Kovalyov, assesseur de collège, qu'il avait l'honneur de raser le mercredi et le dimanche.
Minute, Prokosvi Osipovna, je m'en vais l'envelopper dans un chiffon et le poser dans ce coin. En attendant, je l'emporterai plus tard.
Il ne manque plus que cela. Crois-tu par hasard que je vais garder ici un nez coupé, espèce de vieux clouteau? Tu ne sais plus que repasser ton rasoir, tu ne seras bientôt plus capable de raser les gens comme il faut. Oh, le maudit coureur, oh, la brute, oh, la mal appris. Il faudra encore que je réponde pour lui à la police. Emporte-le tout de suite, saligo. Emporte-le où tu voudras, que je ne t'entende plus parler.
Ivan Yakovlevitch demeurait pétrifié de surprise. Il avait beau réfléchir, il ne savait que penser.
Comment diantre cela est-il arrivé? Étais-je plein quand je suis rentré hier soir? Je ne m'en souviens plus. Et puis, vraiment, l'aventure tient de l'invraisemblable. Qu'est-ce qu'un nez est venu faire dans ce pain? Non, je n'y comprends goutte.
Ivan Yakovlevitch se tue. À la pensée que les gens de la police pourraient le trouver en possession de ce nez et l'accuser d'un crime, Ivan Yakovlevitch perdit définitivement ses esprits. Il crut voir apparaître une épée, un collet rouge vif brodé d'argent et se prit à trembler de tout le corps. Enfin, il enfila son pantalon et ses bottes, enveloppa le nez dans un chiffon et se précipita dehors accompagné des imprécations de Praskovy Osipovna.
Oh là là.
Ivan Yakovlevitch avait l'intention de jeter son paquet dans un trou de borne sous quelque portail ou de laisser choir comme par hasard au coin d'une venelle. Par malheur, il se heurtait sans cesse à des personnes de connaissance qui lui demandaient dès d'abord « Où cours-tu comme ça ?» ou bien « Quand vas-tu barbifier de si bonne heure ?» ou « Qui ?» Pardon. Et il ne parvenait pas à saisir l'instant propice. Une fois pourtant, il crut s'être débarrassé de son paquet, mais un garde de la ville lui désigna du bout de sa hallebarde en disant
« Allez là-bas, le particulier, il fallait voir enlever ça, hein !»
Force eut bien à Ivan Yakovlevitch de ramasser le nez et de le fourrer dans sa poche. Le désespoir le gagnait, car les boutiques s'ouvraient et les passants se faisaient de plus en plus nombreux. Il décida de gagner le pont Saint-Isaac dans l'espoir de jeter à la Neva son encombrant fardeau. Mais, excusez-moi, je me réponds, et je n'ai aucun détail sur Ivan Yakovlevitch, personnage fort honorable sous beaucoup de rapports. Comme tout artisan russe qui se respecte, Ivan Yakovlevitch était un ivrogne fieffé. Et bien qu'il rasât tous les jours le menton d'autrui, le sien demeurait éternellement broussailleux. La couleur de son habit, Ivan Yakovlevitch ne portait jamais de surtout, rappelait celle des cheveux ronds. À vrai dire, cet habit était noir, mais entièrement pommelé de taches grises et brunâtres. Le col luisait, trois bouts de fil pendaient à la place des boutons absents. Quand il se confiait aux soins de notre barbier, l'assesseur de collège, Kovalyov, avait coutume de lui dire
« Sapristi, Ivan Yakovlevitch, que tes mains sentent mauvais. Pourquoi voulez-vous qu'elles sentent mauvais ?»« Je n'en sais rien, mon cher. Toujours est-il qu'elles puent ?»
rétorquait l'assesseur de collège. Alors, Ivan Yakovlevitch prenait une prise et pour se venger, savonnait impitoyablement les joues, le nez, le cou, les oreilles, toutes les parties du passant que son blaireau pouvait atteindre. Cependant, ce respectable citoyen, Ivan Yakovlevitch, pour en revenir à lui, avait déjà gagné le pont Saint-Isaac. Il commença par inspecter les alentours, puis il se pencha sur le parapet, comme pour voir s'il y avait toujours beaucoup de poissons, et se débarrassa discrètement du chiffon fatal. Aussitôt, Ivan Yakovlevitch se crut délivré d'un poids de 100 livres. Il esquissa même un sourire. Au lieu d'aller rafraîchir des mentons de bureaucrates, il résolut d'aller prendre un verre de pont dans un établissement dont l'enseigne indiquait
« Ici, l'on sert du thé à manger. »
Pas de punch.
Il y portait déjà ses pas quand, soudain, il aperçut au bout du pont un exempt de police à l'intérieur imposant et à l'extérieur exposant, large favori tricorne, épée au côté. Ivan Yakovlevitch perdit contenance, tandis que l'exempt l'appela du doigt.
« Approche, mon brave !»
Ivan Yakovlevitch, qui connaissait des usages, retira sa casquette et accourut à pas rapide.
« Je souhaite le bonjour à votre seigneurie. »« Ouais, laisse-la ma seigneurie, dis-moi plutôt ce que tu fais sur le pont. »« Par ma foi, monsieur, en allant raser mes pratiques, je me suis arrêté pour voir comme l'eau coule vite. »« Ne me compte pas, réponds-moi franchement, là. »« Je suis prêt à vous raser gratis, votre grâce, deux ou trois fois par semaine. »« Bref de s'en être, ami, j'ai déjà trois de tes pareils qui s'estiment fort honorés de me barbifier. » « Voyons, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais sur le pont ?»
Ivan Yakovlevitch pâlit. Mais la suite de l'aventure se perd dans un brouillard si épais que personne n'a jamais pu le percer. L'assesseur de collège, Kovalyov, se réveilla d'assez bonne humeur en murmurant
suivant une habitude qui aurait été bien en peine d'expliquer.
Il s'étira et se fit donner un miroir dans l'intention d'examiner un petit bouton qui, la veille au soir, lui avait poussé sur le nez. À son immense stupéfaction,
il s'aperçut que la place que son nez devait occuper ne présentait plus qu'une surface lisse. Tout alarmé, Kovalyov se fit apporter de l'eau et se frotta les yeux avec un essuie-main. Le nez avait bel et bien disparu. Il se palpa, il n'arrivait pas à se convaincre qu'il ne dormait point. Mais non, il paraissait bien éveillé. Kovalyov sauta à bas du lit, s'ébroua, toujours pas de nez. Il s'habilla séance tenante et se rendit tout droit chez le maître de police. Par un fait exprès, aucun fiacre ne se montrait dans la rue. Il dut faire le chemin à pied, enveloppé dans son manteau et le visage enfoui dans son mouchoir, comme s'il saignait du nez. Soudain, il s'arrêta, cloué sur place. Un événement incompréhensible se passait sous ses yeux. Un landau venait de s'arrêter devant la porte d'une maison. La portière s'ouvrit, un personnage en uniforme sauta tout courbé de la voiture et grimpa l'escalier 4 à 4. Telles ne furent pas la surprise et l'effroi de Kovalyov en reconnaissant dans ce personnage son propre nez. À ce spectacle extraordinaire, il crut qu'une révolution s'était produite dans son appareil visuel. Il sentit ses jambes flageoler, mais décida pourtant d'attendre coûte que coûte le retour du personnage. Il demeura donc là, tremblant comme dans un accès de fièvre. Au bout de 2 minutes, le nez réapparut.
Il portait un uniforme brodé d'or à grand col droit, pantalon de chamois et une épée au côté. Son bicorne à plumes laissait inférer qu'il avait un rang de conseiller d'État. Il faisait à coup sûr une tournée de visite, il regarda de côté et d'autre, et là sa voiture y prit place et disparut.
Le pauvre Kovalyov, tout pantois, ne savait que penser de cet étrange incident. Comment diantre son nez, hier encore ornement de son visage, et incapable de se mouvoir, pas plus à pied qu'en voiture, pourrait-il aujourd'hui porter un uniforme ? Il courut derrière la voiture qui, heureusement pour lui, s'arrêta bientôt devant le bazar. Kovalyov s'y précipita à travers une rangée de vieilles mendiantes dont le visage entièrement mitouflé, sauf 2 ouvertures pour les yeux, provoquaient d'ordinaire des quolibets. Il n'y avait pas encore grand monde. Kovalyov se sentait si déprimé qu'il ne savait à quoi se résoudre. Ses yeux cherchaient le nez, dans tous les coins. Ils le découvrirent enfin arrêté devant une boutique. Le visage dissimulé dans un grand col droit. Le nez se plongeait tout entier dans l'examen des marchandises.
Comment faire pour aborder tout le bicorne unifoque indique le conseiller d'État que décidé.
Il tourna autour du personnage en tout sautant. Mais le nez ne bougea pas.
Monsieur.
Que désirez-vous ?
Je suis surpris, monsieur. Vous devriez, il me semble, un peu mieux connaître votre place, mais puisque je vous retrouve, avouez que...
Mais pardon, je ne parviens pas à comprendre ce que vous voulez dire. Expliquez-vous.
Comment lui expliquer ? Évidemment, je... Mais enfin, monsieur, je suis major et je ne serai qu'un les hommes me promener sans nez. Que pareille aventure arrive à une vendeuse d'oranges pelées ou de pont de l'Ascension passe encore, mais moi, monsieur, je suis en passe d'obtenir. Et puis, je suis reçu dans de nombreuses maisons. Je compte parmi mes connaissances madame la concierge chez Kardiop et bien d'autres dames. Je ne sais vraiment... Excusez-moi, monsieur. Mais à part les francs, si l'on envisage la chose selon les règles de l'honneur et du devoir, bref, vous conviendrez que...
Mais je ne comprends goutte, expliquez-vous plus clairement.
Monsieur, je ne sais quel sens de l'honneur à vos paroles, l'affaire est pourtant bien claire. Enfin, monsieur, n'êtes-vous pas mon propre nez ?
Le nez considéra le major avec un léger froncement de sourcils.
Voyez-vous, monsieur, vous vous trompez. Je n'appartiens qu'à moi-même. Des 3 relations ne sauraient d'ailleurs exister entre nous. En jugé par le bouton de votre uniforme, nous appartenons à des administrations différentes.
Sur ce, le nez tourna le dos à Kovalyov,
qui perdit contenance et ne sut plus ni que faire, ni que penser. Kovalyov, résolu de recourir à la presse et de publier dans les journaux une description détaillée de son nez. Tous ceux qui rencontreraient le fugitif pourraient ainsi le lui ramener ou, tout au moins, lui indiquer le logis du fripon. Il se fit aussitôt conduire à un bureau d'annonce et, tout le long du chemin, ne cessa de bourrer de coups de poing le dos du cocher. Le fiacre finit enfin par s'arrêter. Kovalyov, hors d'haleine, se précipita dans une petite salle où un employé grissonnant, vêtu d'une vieille frappe fort usée et portant des lunettes, comptait la plume entre les lèvres de la monnaie de billets.
À qui faut-il s'adresser pour une annonce ? Pardon, bonjour, monsieur. À qui faut-il s'adresser pour une...
J'ai bien l'honneur. Mais là...
Je désirais faire insérer...
Si vous voulez bien attendre, je suis désolé, mais j'ai tous ces gens là qui sont que vous là.
Pardon.
Toute cette compagnie assemblée dans une pièce aussi exiguë en rendait l'atmosphère particulièrement lourde. Cependant, le major Kovalyov ne s'en trouvait point accommodé. Il tenait son mouchoir sur son visage et d'ailleurs, son nez se promenait, Dieu sait où.
Permettez, monsieur, je suis très pressé, s'il vous plaît.
Tout de suite, voici 2 roubles 43 copecs, tout de suite, monsieur. 1 rouble 64 copecs,
disait le grison en jetant leurs billets à la tête des concierges et des commères.
Vous désirez?
Je voudrais... Voyez-vous, je ne sais pas s'il choisit d'une canaillerie ou d'une friponnerie. Je voudrais seulement faire savoir que quiconque me ramènera mon coquin de nez recevra une honnête récompense.
Votre nom?
Mon nom, impossible. Vous comprenez que j'ai beaucoup de connaissances, madame la conseillère Tchekotreyov, madame Bodochkine, Pelagie Vitourievna, une veuve d'officier supérieur. Les voyez-vous apprenant tout d'un coup que... Dieu m'en préserve. Écrivez tout simplement un assesseur de collège ou mieux encore, un monsieur ayant rang de major.
Et le fugitif est l'un de vos serfs?
Un serf, il s'agit bien de cela. Non, le fugitif n'est autre que mon nez.
Vous dites quel nom bizarre, et ce monsieur mon nez vous a emporté une forte somme?
Et non, vous faites erreur, mon nez est monsieur mon propre nez. A pris la poudre des scampettes, c'est le diable sans doute qui m'a joué ce beau tour.
Comment diable cela est-il arrivé? Je ne comprends pas très bien.
Je ne saurais vous le dire, toujours est-il que ce monsieur roule carrosse et se fait passer pour conseiller d'État. Je vous prie donc d'annoncer que quiconque mettra la main dessus et à me le remettre dans les plus brefs délais possibles. Voyons, monsieur, je vous le demande, que puis-je faire sans cet organe apparent? S'il ne s'agissait que d'une orteille, je fourrais mon pied dans ma botte et personne ne remarquerait l'absence. Mais vous comprenez, je vais tous les jeudis chez madame la concierge, chez Karyov, chez madame Podoshkin, Pelagie Grigaryovna, une femme d'officier supérieur et sa charmantie sont aussi de mes amis. Jugez-en vous-même, impossible maintenant de me présenter décemment devant elle.
L'employé se prit à réfléchir, du moins la contradiction de ses lèvres permettait de le supposer.
Non, aucun journal ne voudra insérer une pareille annonce.
Et pourquoi cela?
Parce que cela nuirait à leur réputation, vous comprenez, si chacun se met à déclarer que son nez a pris la clé des champs. On reproche déjà aux journaux d'amplifier et d'imprimer tant de sornettes.
Permettez-moi, il ne s'agit pas de sornettes.
L'employé lui-même parut touché de la situation embarrassée de Kovalyov. Désireux de lui alléger sa peine, il jugea convenable de lui témoigner un peu de sympathie.
Je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive. Puis-je vous offrir une prise? Cela calme les maux de tête et dissipe les humeurs noires. C'est même excellent contre les hémorroïdes.
Tout en parlant, l'employé tendait à Kovalyov sa tabatière, non sans avoir adroitement fait sauter le couvercle qu'agrémentait le portrait d'une dame en chapeau. Cette offre innocente
mit le comble à la fureur du major.
Et quoi ? Vous ne voyez donc pas qu'il me manque justement l'organe avec lequel on prise ? Le diable soit votre sale tabac. Je suis dans un état de refuser le meilleur râpé.
Kovalyov se retira donc et rentra chez lui en chancelant. La nuit tombait déjà. Après toutes ces démarches infructueuses, son logis lui paraît d'une tristesse, d'une laideur infinie. Il trouva dans l'antichambre son domestique Ivan qui, vautré sur un divan de cuir sordide, s'exerçait avec assez de bonheur à cracher au même endroit du plafond. Une pareille indifférence redoubla la fureur de Kovalyov. Il donna au faquin un grand coup de chapeau sur le front en criant
« Ah, les dégoûtants, toujours des sottises en tête !»
Ivan sauta à bas du divan et s'humit précipitamment en devoir de retirer le manteau de son maître. Une fois dans sa chambre, Kovalyov, en proie à la fatigue et à la mélancolie, se laissa choir dans un fauteuil. Il poussa quelques soupirs, puis il se tint ce discours.
Mon Dieu, pourquoi m'envoyez-vous cette calamité ? S'il s'agissait d'un bras ou d'une jambe, ce ne serait que demi-malheur, mais sans nez, un homme n'est plus un homme. C'est un rien qui vaille, bon à jeter par la fenêtre. Si encore je l'avais perdu en duel ou à la guerre ou par ma faute. Hélas, non. Il a disparu comme cela, sans rime ni raison. Non, c'est inconcevable. Je suis le jouet d'un cauchemar, d'une hallucination. Sans doute ai-je bu au lieu d'eau pure de cette eau de vie dont je me frotte le manteau quand on m'a fait la barbe. Cet imbécile d'Ivan a oublié d'emporter le flacon et je l'aurais avalé par distraction.
Pour se convaincre qu'il n'était pas ivre, le major se pinça si fort qu'il en poussa un cri.
Aïe !
La douleur le convainquit qu'il jouissait bien et bien de toutes ses facultés. Il s'approcha à petits pas du miroir, les yeux à demi-clos, dans l'espoir qu'en les rouvrant, il aurait la surprise de retrouver son nez en bonne et due place. Mais il bondit aussitôt en arrière en grommelant.
« Toi, quelle sale bobine !»
C'était vraiment à n'y rien comprendre. Un bouton, une cuillère d'argent, une montre ou tout autre objet, passe encore. Mais perdre son nez, et dans son propre logis.
C'est bien ici qu'habite monsieur l'assistant du collège Kovalyov.
Le major bondit.
Entrez, bonjour, je suis le major Kovalyov. Vous avez perdu votre nez?
Tout juste.
Eh bien, il est retrouvé.
Que dites-vous?
Et la joie enleva l'usage de la parole au major Kovalyov. Il dévorait des yeux l'exempt de police planté devant lui, sur les lèvres et les joues duquel se jouait la lueur vacillante de la bougie.
Comment l'a-t-on retrouvé? Oh, d'une manière fort étrange. On l'a arrêté au moment où il se disposait à prendre la diligence de Riga. Il s'était depuis longtemps muni d'un passeport au nom d'un fonctionnaire. Et le plus bizarre est que je l'ai tout d'abord pris pour un monsieur. Heureusement que j'avais mes lunettes. Cela m'a permis de reconnaître que ce n'était qu'un nez. Je dois vous dire que je suis myope. Vous êtes là devant moi, mais je ne vois que votre visage sans distinguer ni votre nez, ni votre barbe. Ma belle-mère, j'entends la mère de ma femme, elle aussi l'a vu faible.
Kovalyov ne se sentait plus de joie.
Où est-il? Où est-il que je cours le chercher? Inutile de vous déranger, sachant que vous en aviez besoin. Je vous l'ai apporté.
L'exempt fouilla dans sa poche et en retira un nez enveloppé dans un papier.
C'est bien lui. C'est bien lui. Permettez-moi de vous offrir une tasse. J'accepterai avec grand plaisir. Par malheur, je n'ai pas le temps, il me faut encore passer à la maison d'arrêt. C'est lui. C'est bien lui. Ah, voici celui que j'avais. Le bouton que j'avais hier sur la narine gauche, le bouton qui m'est venu hier. Merci, merci beaucoup.
Et le major faillit éclater de rire. Mais rien n'est durable ici-bas. Au bout d'une minute, la joie perd de sa vivacité. Une minute encore et le voilà plus faible. Elles se font ainsi par degrés avec notre état d'âme habituel, comme le cercle fermé par la chute d'un caillou se dilue à la surface de l'eau. Toutefois, en y réfléchissant, le major s'aperçut que tout n'était pas dit. Il ne suffisait pas d'avoir retrouvé le nez. Il fallait encore le remettre en place. Et s'il allait ne pas tenir ? À cette question qu'il s'était posée lui-même, le major pâlit. Sous le coup d'une peur indicible, les mains tremblantes, il se précipita vers le miroir. Sa table de toilette était là. Il risquait bel et bien de replacer son nez de travers sans elle. Doucement, avec précaution, il le posa à son ancienne place. Horreur ! Le nez ne voulait pas tenir. Il l'approcha de ses lèvres, le réchauffa de son souffle, l'appliqua sur la surface lisse qui s'offrait entre les deux joues. Peine perdue. Le nez n'adhérait toujours pas.
Allons, allons, remets-toi en place, animal, on veut que tu te remettes en place. Mais ça va te dire.
Mais le nez semblait sourd et retombait chaque fois sur la table en émettant un son étrange, comme s'il eût été de liège.
Ne voudra-t-il jamais te dire, ne voudra-t-il jamais te dire ?
S'écriait le major, les traits contractés. Mais plus il le remettait en place et moins le nez voulait adhérer. En désespoir de cause, Kovalyov envoya chercher le médecin qui habitait au premier dans le meilleur appartement de la maison. Après l'examen, l'homme de l'art branla le chef et déclara.
Restez donc comme vous êtes. Pour éviter des complications, on peut évidemment remettre votre nez en place. Je m'en chercherai volontiers, mais je vous le répète, vous vous en trouverez plus mal.
Sur ces tristes paroles, le médecin se retira avec un grand air de dignité, auquel Kovalyov, complètement désemparé, ne prit d'ailleurs point garde. C'est à peine si le malheureux remarqua les manchettes d'une blancheur de neige qui tranchait sur l'habit noir de l'esculape. Tout bien considéré, le major Kovalyov se persuada que l'auteur du délit ne pouvait être que Madame Podlotchine. Cette personne désirait le voir épouser sa fille, lui-même à l'occasion courtisait volontiers la demoiselle, mais reculait devant un engagement définitif. Le lendemain, le major se résolut avant de porter plainte à une tentative de conciliation. Madame Podotchine consentirait peut-être à lui retourner son bien sans esclandre, à faire qu'il recolle à sa face. En conséquence, il lui écrivit la lettre suivante.
Très honorée Alexandrine Grigorievna, je n'arrive pas à comprendre votre manière d'agir, vous n'y gagnerez rien. Pareil procédé ne saurait me contraindre à épouser mademoiselle votre fille. Car l'affaire est éclaircie. Vous en êtes la principale instigatrice. Nul ne l'ignore plus. La disparition subite de mon nez, sa fuite, son déguisement sous les traits d'un fonctionnaire, sa réapparition sous sa propre forme, sont les faits de sortilèges opérés par vous, par des personnes qui vous prêtent leur concours pour de si nobles exploits. Je crois bon de vous prévenir que si mon nez n'a pas repris dès aujourd'hui sa place, je me verrai contraint de placer sous la protection des lois. Sur ce, j'ai l'honneur d'être madame avec un profond respect, votre dévoué serviteur, Platon Kovalyov.
Très honoré Platon Kousmitch, votre lettre a tout lié de Monsieur Trump. Je ne me serais jamais attendu à pareil reproche de votre part. Je n'ai jamais reçu ni sou, un déguisement, ni sous son véritable aspect, le fonctionnaire dont vous m'entretenez. Philippe Ivanovitch Potanchikov a, il est vrai, fréquenté chez moi et recherché la main de ma fille. Cependant, malgré ses bonnes mœurs, sa sobriété, son instruction, je ne lui ai jamais donné le moindre espoir. Vous me parlez d'une histoire de nez. Si vous entendez par là que vous avez reçu un pied de nez, en d'autres termes que vous avez essuyé un refus de ma part, laissez-moi vous dire que c'est précisément le contraire. J'ai toujours été et je suis toujours prête à vous accorder la main de ma fille si c'est le plus cher de mes désirs. Et dans cet espoir, j'ai l'honneur d'être votre bien dévouée, Alexandrine Podochnine.
Non, c'est impossible. Je ne reconnais pas là le style d'une criminelle, se dit Kovalyov.
L'assesseur qui avait procédé au Caucase a plus d'une enquête s'entendait en ces matières.
Mais alors, comment cela est-il arrivé? Le diable seul pourrait débrouiller l'affaire,
s'exclama-t-il enfin en se laissant retomber ses bras de désespoir.
Il se passe en ce bas monde des choses d'où la vraisemblance...
Je le refais.
Il se passe dans ce bas monde des choses où la vraisemblance est bien souvent bannie. Un beau jour, ce fameux nez qui se promenait affublé en conseil d'État et faisait tant parler de lui, se retrouva soudain comme si rien ne s'était passé à son ancienne place. C'est-à-dire entre les deux joues du major Kovalyov. L'événement eut lieu le 7 avril. À son réveil, le major jeta par hasard un coup d'œil à son miroir et s'aperçut du retour de son nez. Il y porta la main. C'était bien lui.
Oh bah,
s'écria Kovalyov qui, dans sa joie, aurait dansé pieds nus un trépas endiablé au travers de sa chambre si la venue d'Ivan ne l'en avait pas empêché. Il se fit aussitôt apporter de l'eau pour ses ablutions. En se débarbouillant, il se mira de nouveau. Le nez était bien là. Il se mira encore tout en s'essuyant. Le nez restait en place. Depuis lors, le major Kovalyov se fait voir partout, à la promenade comme au théâtre. Et son nez demeure planté au bon endroit, comme s'il n'avait jamais eu la fantaisie d'aller se pavaner ailleurs. Aussi, le major Kovalyov se montrait-il toujours d'excellente humeur. Il poursuit, le sourire aux lèvres, toutes les jolies femmes. On l'a même vu une fois au bazar en train d'acheter le ruban de je ne sais plus quel ordre, chose d'ailleurs surprenante car il n'est pas chevalier d'aucun ordre. Telle est l'aventure qui eut pour théâtre la capitale septentrionale de notre vaste empire. À y bien réfléchir, beaucoup de détails en paraissent inconcevables, sans parler de la disparition vraiment surnaturelle du nez et de sa réapparition en divers endroits, sous forme de conseiller d'État. Comment Kovalyov a-t-il pu songer à réclamer son nez par la voix des journaux? Je ne parle pas du coup de l'annonce, n'allez pas me ranger parmi les avares, mais de son inconvenance, de son immodestie. Et puis, comment le nez s'est-il trouvé tout d'un coup dans un pain frais? Comment Ivan Yakovlevitch... Non, cela ne tient pas debout. Non, je comprends pas. Mais ce qu'il y a de plus étrange, le plus extraordinaire, c'est qu'un auteur puisse choisir de pareils sujets. Je l'avoue, cela est pour le coup absolument inconcevable. C'est comme si... Non, je renonce à comprendre. Premièrement, cela n'est absolument d'aucune utilité pour la patrie. Deuxièmement non plus d'aucune utilité. Bref, je ne sais pas du tout ce que c'est que ça. Et cependant, malgré tout, bien que certes on puisse admettre et ceci et cela et encore autre chose, peut-être même... Et puis enfin quoi? Où n'y a-t-il pas d'incohérence? Et après tout, tout bien considéré, dans tout cela, vrai, il y a quelque chose. Vous aurez beau dire, des aventures comme cela arrivent en ce monde. C'est rare, mais ça arrive. Bye.